Vous savez, écouter la parole de Dieu, c'est aussi un combat. Puisque la Bible nous dit que des fois, l'ennemi vient enlever la parole qui est semée. Et donc, nous allons prier pour que Dieu puisse disposer notre cœur à recevoir cette parole, afin qu'elle puisse porter du fruit. Lorsque Dieu parle, ce n'est pas pour rien. Dieu parle pour encourager, pour édifier son peuple, pour qu'il puisse porter du fruit. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole qui est merveilleuse. Nous te bénissons aussi pour tes serviteurs. Nous t'apportons devant toi Jean-Claude afin que tu le bénisses. Et merci pour les paroles que tu as mises sur son cœur pour qu'il puisse nous les apporter de ta part. Et nous prions Seigneur pour chacun d'entre nous que nous soyons disposés à recevoir cette parole. Puisque la parole de Dieu dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alors Seigneur notre Dieu, veuille augmenter notre foi en écoutant ta parole, maintenant, au nom de Jésus-Christ. Amen.
Merci, bonjour à chacun, chacune. Est-ce que Joy aurait besoin de traduction? You need any translation? It's okay? Bon, sinon vous soulevez votre main, il y a des gens à côté de vous qui parlent l'anglais, donc ils peuvent traduire en cas de nécessité. Voilà, enfin, je veux pas pousser les frères, mais voilà, pour que tout le monde puisse comprendre. Ce qui est intéressant dans notre monde, c'est que ce qui se passe dans le plus petit village, le plus éloigné de chez nous, arrive sur notre écran, arrive sur notre téléphone, arrive sur notre ordinateur, à une vitesse incroyable. L'incident n'a pas fini d'avoir lieu que déjà, c'est sur Internet, c'est sur Twitter, c'est sur Facebook. Et on apprend des choses très très vite, n'est-ce pas? Et je me suis posé la question, en est-il des sujets de prière? En est-il des événements la même vitesse? En est-il des événements que nous vivons la même rapidité à les transmettre pour que nous puissions prier? Demander à Dieu d'intervenir. Souvent, l'événement a déjà eu lieu. Accident de train, il y en a eu deux. Accident d'avion, il y en a eu deux. Rien que ces deux dernières semaines. Hein. Et d'autres choses. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on lit la Bible, on a l'impression, moi j'avais l'impression pendant l'été en lisant, que de temps en temps, Dieu nous m'attirait vers un événement que peut-être j'avais pas vraiment regardé en direct. Que je lisais rapidement en disant « c'est un événement ». Mais tout événement reporté dans la Bible a son intérêt. Et est là pour nous apprendre quelque chose. Alors ce matin, on va faire un voyage, on va aller à Capernaum. Capernaum, c'est une ville, on va le voir, petite, mais assez connue, au point où notre Seigneur Jésus-Christ y a passé du temps. C'est en Galilée, une petite ville de pêcheurs, dans les deux sens, hein, le pêcheur à la ligne et le pêcheur comme nous. Petite ville qui relate plusieurs événements, mais j'en ai choisi un ce matin, et je vous expliquerai à la fin pourquoi. Donc je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Matthieu chapitre 5, à partir du verset 25, et on va lire jusqu'au verset 34. Marc, chapitre 5. Marc. Je reviens de vacances, mes amis. Pardonnez-moi. Marc. Mathieu, on va y aller tout à l'heure pour expliquer. On va faire un saut dans Marc, un saut dans Luc pour expliquer le texte. Mais on va lire dans Marc, pardon. Je vous demande pardon. Marc 5. Verset 25. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais elle était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. car elle disait « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie ». Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule, il dit « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent « Tu vois la foule qui te presse et tu dis « Qui m'a touché ?» Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. » Voilà, c'est une histoire que on lit rapidement. C'est une histoire, c'est l'histoire d'une guérison. C'est l'histoire d'un miracle. Mais il n'est pas anodin ce texte. Et il a attiré mon œil, dont j'espère que nous allons apprendre quelque chose avec. Dans cette ville de Capernaum, on sait que c'est l'endroit qu'ont choisi les parents de Jésus pour aller s'établir. Et on lit dans Matthieu chapitre 4 verset 13 qu'il a laissé Nazareth et qu'il est venu s'établir à Capernaum, qui est près du lac. Un autre élément intéressant par rapport à Capernaum, c'est que dans Matthieu chapitre 9, verset 1, c'est l'autre évangéliste, Matthieu chapitre 9, verset 1, il dit qu'il a été dans sa ville, Capernaum comme sa ville. On l'appelle Jésus de Nazareth. Et on a, si on voulait localiser un endroit établi où Jésus appartient, on aurait dit Nazareth. Ce qui est intéressant, c'est que Capernaum, il l'appelle sa ville. Ou au moins Matthieu, quand il parle de la ville de Capernaum et qu'il dit Jésus s'y est rendu, il ne dit pas il s'est rendu dans une ville, il dit il s'est rendu dans sa ville. La Galilée a été témoin d'énormément de miracles, de beaucoup de choses. La Galilée a vu Jésus agir. C'est là quand Marc 2, 14 nous dit qu'il y avait une douane et qu'il y avait un douanier qui s'appelait Lévi. C'est là qu'il l'a vu. Matthieu chapitre 8, verset 15 nous dit que dans cette ville, il y avait une légion et qu'il y avait une fille d'un légionnaire qui était gravement malade. Donc c'est une petite ville, mais ce n'est pas une ville ordinaire. Vous savez ce qui est extraordinaire? Moi, je trouve extraordinaire, c'est que Dieu, avec des choses très ordinaires, fait des choses extraordinaires. Et donc, on va regarder l'histoire de cette femme. Parce qu'il y a quelque chose d'intéressant dedans. En tout cas, moi, qui m'a attiré et qui m'a dit, il y a quelque chose à voir. Verset 25, « Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang. » Une femme était là. Il y avait plein de gens. C'est intéressant. C'est comme si vous étiez au Stade de France, 80 000 personnes sortent, et puis quelqu'un écrit, et là, dans les 80 000 personnes, il y avait une femme. Oui, et alors ? Il y avait une femme. Elle était là. Parmi une grande foule qui suivait Jésus. Vous savez, Jésus, il attirait les foules. Parce qu'il faisait des miracles. Et parce qu'on voulait voir qui il était vraiment. Elle était dans la foule. Mais elle n'était pas ordinaire, cette femme. Elle était atteinte d'une perte de sang. On lit ça très rapidement, on fait « oui, ben, elle avait une perte de sang ». Alors, c'est un sujet un peu délicat, hein, de parler des pertes de sang. Ces choses que Dieu a données à la femme une fois par mois. Ces choses qui sont là pour renouveler le système de l'épouse ou de la dame. Et ben elle souffre ça pas une semaine, pas trois semaines, mais 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pendant 12 ans. Tiens, ça nous rend là, cette dame-là un petit peu particulière, non? Elle avait, certains ont traduit, une hémorragie. Vous imaginez une hémorragie qui dure 12 ans? C'est incroyable. Comment peut-elle avoir survécu? On n'avait pas les urgences, on n'avait pas les dons de sang comme à notre jour. 12 ans. C'est une femme dont on ne connaît pas le nom. Ce qui est intéressant, l'auteur n'a pas stipulé de nom. Il a parlé d'une femme qui souffre terriblement. Ce n'est pas des choses ordinaires, n'est-ce pas? Aujourd'hui, on a des médicaments, on a des soins. Et là, le texte nous dit bien que cette femme a souffert pendant 12 années. Mes amis, quand on souffre 12 années, c'est long, n'est-ce pas? Quand on a un mal et qu'il ne part pas, mes amis, on compte pas les mois, on compte pas les semaines, on compte pas les années, mais on finit par compter les minutes. Je me rappelle un des accidents dont j'ai été victime. Je souffrais terriblement. Et tout ce que j'espérais, c'était qu'une fois qu'il m'avait fait une injection pour que j'aie plus mal, que dès que le mal revienne, il puisse m'en faire une autre. Or, malheureusement, il fallait attendre. Parce que les médicaments, on ne peut pas les injecter tout le temps. Et je me suis dit, mais cette femme, quelle souffrance, quelle peine. 12 années. On ne dit pas si elle était mariée, on ne dit pas si elle avait une famille, on ne dit pas si elle avait un emploi. Mais là, Marc regarde cette femme et il dit, elle a souffert, et elle a souffert 12 années. Et là, il y a une chose encore plus terrible. Regardez verset 26, il dit, elle avait beaucoup souffert entre les mains des médecins. C'est terrible ça. Elle avait beaucoup souffert entre les mains des médecins. Si on va voir le médecin qui nous fait souffrir, bon, il y en a, ils nous font souffrir pour guérir. Hein. Mais là, apparemment, ils avaient fait souffrir, mais... Allez, ils n'avaient pas guéri. Elle avait enduré sous les mains des physiciens des choses terribles. Certains textes ont traduit, ils l'ont maltraité. Maltraité. Mais la chose qui est terrible avec notre texte, regardez bien, il est dit, elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Donc, on a une dame malade, souffrante, anémiée, fatiguée, qui souffre, qui a voulu guérir avec ceux qui légalement peuvent la guérir, qui a dépensé toute sa fortune pour se faire soigner, et qui n'a pas réussi. Elle a dépensé tout ce qu'elle avait. Elle a perdu sa fortune. Elle n'avait éprouvé, regardez bien la fin du verset 26, aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Combien de fois nos traitements, et là je prêche pas contre les médecins, hein, ne partez pas de l'église en disant, ça y est, Jean-Claude, il a dit, on va plus voir les médecins. C'est pas vrai. D'accord? C'est pas le texte. Mais le texte montre là que cette femme n'a pas trouvé de guérison. Elle n'a pas trouvé le moyen d'être guérie. Elle a souffert terriblement. Mais quelque chose, si sa douleur a augmenté, si son argent, lui, est parti, et même si physiquement, apparemment, elle est complètement atteinte, il y a une chose qui lui reste. L'espoir. L'espoir d'aller rencontrer Jésus. L'espoir d'aller... On perd courage, n'est-ce pas? Combien de fois on dit, il n'y a plus aucun espoir. C'est fichu. Et finalement, c'est presque là qu'on se tourne vers Dieu, en disant, Seigneur, et toi, à tout hasard, tu n'aurais pas une solution? Tu n'aurais pas une solution. Elle n'a pas abandonné sa foi, même si tout, semble-t-il, était en train de s'écrouler. Elle croyait toujours. Beaucoup d'entre nous souffrent physiquement. D'autres ont des problèmes financiers. D'autres ont des problèmes d'emploi. D'autres ont des problèmes de papier qui durent. Et on ne peut pas apprécier la longueur, la persévérance de ses amis en disant « Mais vous croyez encore ?» Hier, on a perdu quelque chose, enfin j'ai perdu quelque chose qu'on venait d'acheter. Et hier soir, on est retourné pour voir si c'était encore à l'endroit où je l'avais laissé. Mais ça n'y était plus. Et ce qui est intéressant, ma femme a été voir un des responsables, ou je ne sais pas trop, qui était là, en lui disant, mais on a laissé quelque chose là, il y a quelques heures, personne ne vous l'aurait rapporté, la personne, oh madame, vous avez une grande confiance. Dieu aurait pu le garder, mais Dieu ne l'a pas fait. Pour quelle raison, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce n'était pas de sa faute à lui, c'était de la mienne. Et je ne peux pas le blâmer aujourd'hui. Certains souffrent de solitude. Certains finissent par dire, mais s'il y a vraiment un Dieu qui existe, pourquoi ne répond-il pas? Ce qui est intéressant, c'est que dans notre esprit à nous, quand on demande, on doit recevoir. Parce que la Bible dit, demande et tu recevras. Et j'ai entendu pendant les vacances un message de la part du pasteur Débry qui disait, ce qui est intéressant avec le psaume 23, c'est qu'avant le psaume 23, c'est le psaume 23, vous connaissez, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, etc. On connaît, hein, n'est-ce pas? J'habiterai dans la maison. Ça nous semble tellement rafraîchissant. Mais ce qui est intéressant, et c'est pas une lapalissade, c'est qu'avant le psaume 23, il a dit, avant le psaume 23, il y a le psaume 22. Vous avez déjà remarqué qu'avant le 23, il y avait le 22. Non, mais c'est pas une lapalissade, hein, c'est dans le texte. Et dans le psaume 22, il dit, c'est le même qui écrit le psaume 23. Il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi ne réponds-tu pas? Pourquoi quand je crie, tu n'entends pas? C'est intéressant, ça. Et là, on commence à comprendre que le psaume 23, quand il utilise les verbes, il les utilise au futur, et pas au présent. Et on peut se demander des fois comment Dieu nous garde dans la bonne perspective, en disant, quand Dieu voudra, en son temps, Dieu donnera sa réponse. Dieu peut nous guérir, n'est-ce pas? Dieu peut débloquer tous les dossiers, même les dossiers chez les avocats ou les notaires qui sont en vacances. N'est-ce pas? Ce qui est intéressant, c'est qu'il ne prend pas de vacances, Dieu. Il n'a pas les 5 semaines. Mais s'il le peut, une des questions qui nous torturent, pourquoi ne le fait-il pas? Alors, si vous avez la réponse, vous venez me voir à la fin, hein, vous venez voir Pierre avec moi, parce que moi, je n'ai pas encore trouvé. Merci beaucoup. On ne peut pas parler à la place de Dieu. On ne peut pas décider à la place de Dieu. Mais nous pouvons croire que Dieu a dit dans la Bible qu'il faisait tout pour notre meilleur. C'est dur à accepter, ça. Quand vous venez de perdre de l'argent, vous dites, ça, c'est pour mon meilleur, Seigneur. Quand vous avez un accident, quand vous perdez votre emploi, vous levez la tête, Seigneur, il y a un truc que je ne comprends pas bien. Si ça, c'est pour mon bien, alors, Seigneur, oui, c'est pour ton bien. On lit la suite. Mais ayant entendu parler de Jésus, verset 27, elle vint dans la foule par derrière. Bah oui, elle est venue dans la foule. Elle a le droit de venir dans la foule. Non. Parce qu'elle est impure. Et le Lévitique, au chapitre 15, verset 19, dit que quiconque va la toucher sera impur aussi. Donc elle ne peut pas venir publiquement, elle ne peut pas venir de face en expliquant son problème. C'est en venant voir le pasteur en disant, voilà mon problème. Elle a entendu parler de Jésus. Elle attendait ça. Elle attendait que Dieu fasse un miracle dans sa vie. Que Dieu réponde. 12 ans d'attente. Elle a entendu le rapport que Dieu était en train de faire de grandes choses. Elle n'a pas juste marché vers lui. Mais elle a été, elle est rentrée dans la foule par derrière. Ce qui est intéressant, et là j'ai pas trop de formules, mais que la majorité des gens disent qu'elle a parcouru environ une trentaine de kilomètres pour venir. Ça nous paraît ordinaire, nous, avec nos voitures. Avec le train, avec le bus, avec le taxi. Mais elle est certainement venue à pied. Une femme faible. Une femme qui est atteinte dans son corps. Elle est venue derrière. Parce qu'elle est une femme à la perte de sang. Parce qu'elle ne peut pas se présenter en public. Pas parce qu'elle a honte, mais parce que la Bible fait d'elle une femme impure. Lévitique chapitre 15. Hein. Et elle se dit, si seulement je peux toucher son vêtement. Elle met sa foi en action. Elle est fatiguée. Elle aurait pu attendre que Jésus passe dans sa rue, vienne dans son village. Non, elle s'est rendue. Des fois, ça coûte d'aller chercher la réponse. Ah, si j'avais su. Si j'étais venu à temps. Elle a envisagé, on va le dire comme ça, de voler un miracle. Je rentre, je prends, je m'en vais. Ça, c'est assez simple hein, à faire. De profiter qu'il y a une grande foule et de repartir sans rien dire. Le verset 27 dit, elle vint dans la foule par derrière et elle a touché. Vous vous rappelez le fils prodigue, il a dit, je me lèverai et j'irai. Puis après il s'est dit, ouais, pff, mon père il va me mettre dehors de toute façon, mon frère il va pas être content, ça sert à rien, pourquoi je vais y aller? Le texte nous dit qu'il s'est levé et qu'il a été. Et là, cette femme, elle a dit, si simplement je peux toucher son vêtement, elle a marché, elle est rentrée dans la foule, sachant qu'elle prenait de gros risques, et elle a été touchée le vêtement. Regardez Actes, chapitre 19. Un instant, juste pour comprendre. Actes, chapitre 19. verset 12. Actes. Verset 11 et 12, il est dit, et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient, les esprits malins sortaient. Dieu, dans cette propagation de l'évangile, faisait des miracles incroyables. Il en fait aussi aujourd'hui, hein. Il ne s'est pas arrêté. Mais on donnait au linge cette valeur que, si ça appartenait à quelqu'un qui faisait des miracles, alors ça transmettait le miracle. Et dans sa tête, elle s'est dit, il faut que je touche. Regardez encore Acte 5. Acte 5. Verset 15. Il est dit, en sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrit quelqu'un d'eux. On donnait aussi à l'ombre le pouvoir de transmettre ces miracles. Waouh ! Quelle époque ! Elle a touché. Et regardez bien le verset 29. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Elle a touché. Et finalement, sa perte de sang s'est arrêtée. Et là, elle aurait pu dire, maintenant, c'est bon, je m'en vais, j'ai eu ce que je voulais. Aussi discrètement que je suis rentré, discrètement, je repars. Elle a pensé, elle a cru, elle a espéré. Elle a mis sa foi en action. Combien de fois, frères et sœurs, combien de fois notre foi s'arrête là? Combien de fois j'aurais dû, y avait qu'à, il aurait fallu. Ah, vous vous rappelez les sœurs de Lazare, hein. Ah Seigneur, si toi tu avais été là. On doute. Cette femme, elle est malade, fatiguée, mais elle n'a pas perdu espoir. Et elle a mis sa foi en action. Elle n'a pas fait un pas de foi à l'extérieur, mais elle a fait un bond dans la foi à l'intérieur. Il n'y a que Jésus qui peut me sauver. Il n'y a que Jésus qui peut me sauver. Jésus, c'est notre chirurgien, c'est celui qui connaît chaque fibre, chaque élément de notre corps. Les médecins, les scientifiques, les grands chercheurs sont souvent dépassés. La science a ses limites. Mais Dieu, lui, il n'a pas de limites. Souvent, nous basons notre foi sur notre ressenti. Mais nous arrêtons nos actes. Dans Jacques au chapitre 2 et au verset 17. Regardez ce verset que vous connaissez certainement. Jacques 2, verset 17. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Notre foi se traduit par des actes. Si nous croyons que Jésus est celui qui nous sauve, alors pourquoi le refuse-t-on ? Le verset 29 nous dit que immédiatement sa perte de sang s'est arrêtée. Qu'elle a eu une prise de conscience. Il se passe quelque chose. Plus de honte, plus de peine, plus de sang. Mais regardez bien, la suite est vraiment surprenante. Cette femme est donc rentrée. Il y a on ne sait combien de personnes autour de Jésus. Vous imaginez marcher dans une foule quand vous prenez le métro aux heures de pointe. Il y a des gens devant, derrière, sur les côtés, ça pousse, ça... Vous imaginez, vous retournez, qui m'a touché? Et c'est ce que fait Jésus. Il fait, qui m'a touché? Et là, même ses disciples, ils vont, attends, Jésus, t'as vu là? Et tout le monde te touche. Et tu dis, qui? Parce que Jésus savait. Il a réalisé que quelque chose était parti. Que quelque chose s'était passé. Vous avez vu le cheminement de cette femme faible qui vient chercher auprès de Jésus le réconfort, qui vient chercher auprès de Jésus et qui finalement obtient de la part de Dieu ce qu'elle attend de Dieu. Qui m'a touché? Il la cherche. Qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse, et tu dis, qui m'a touché? Moi, je suis toujours surpris, et je pense que Dieu a cette même patience qu'avec ses disciples. Quand c'est le moment de nourrir les foules, Jésus leur dit, les disciples disent, bah, renvoie-les, qu'ils aillent chez ED rapidement chercher leur nourriture. Et Jésus dit, mais vous allez les nourrir vous-même. Là, ils sont avec Jésus et ils ne croient pas. Ils disent, mais attends, comment tu peux savoir? Mais Jésus continue de chercher du regard. Regardez le verset 32. Et regardez autour de lui pour voir. Et regardez bien, le texte est intéressant. Pour voir, au moins la seconde a traduit, celle. Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. Il n'y a pas un pluriel. Il y a un féminin singulier. Il cherche une femme. Il se dit, il n'y a pas un gars qui serait capable de faire ça. Les mecs, ils y pensent, mais ils n'oseront pas. Mais une femme, c'est dans sa... Il connaît les femmes, lui, hein. Mieux que nous. Il n'est pas surpris. Non, mais c'est intéressant, non? Moi, ça m'a... Je fais, ah, celle! Tiens, il cherche celle. J'ai pas réussi à trouver un texte qui me disait combien il y avait d'hommes autour. Hein. Mais elle n'était pas toute seule, semble-t-il. Et regardez bien. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds. Il va falloir que je dise la vérité. Il va falloir que j'explique que je suis venu en douce, que j'avais même pas le droit de venir, que j'aurais même pas dû venir, mais que j'ai cru. Et vous croyez que Jésus, là, il est là pour lui faire du mal? Qu'il est en train de la localiser pour lui... Honte à toi, femme, tu n'es pas dans une cuisine, en train de t'occuper des enfants, en train de faire autre chose. Question, pourquoi est-ce qu'il se retourne vers elle? Parce qu'il veut qu'elle dise publiquement. La Bible dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur, la foi, ce n'est pas quelque chose de caché. C'est pas quelque chose qu'on vit dans son petit confin personnel quand ça nous prend. Un chrétien, c'est quelqu'un qui authentifie Jésus-Christ, dont la vie, autant que faire se peut, témoigne de Jésus-Christ. Elle avait peur, elle était tremblante. Regardez bien, Luc 8, 47, le docteur. C'est un médecin là qui parle, hein. C'est plus le jeune Marc sous l'autorité de Pierre. Luc 8, 47, il est dit, « La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Moi, j'aime la complémentarité des évangiles. Parce que quand il y en a un qui oublie quelque chose, l'autre, qui n'a pas la même personnalité, qui n'a pas la même sensibilité. C'est intéressant, quand plusieurs parlent d'un événement, hein, tout le monde ne voit pas la même chose. Et là, Luc, il dit, elle est venue toute tremblante et elle explique pourquoi elle est venue, pourquoi elle a cru. Confession publique, proclamation, témoignage. Oui, il l'a bien fait. C'est brave, non ? Elle est venue pour voler un miracle. Elle est venue pour son bien personnel. Mais Jésus a voulu l'authentifier. Et regardez bien encore quelque chose d'excessivement surprenant que nous lisons rarement bien. Jésus lui dit, verset 34, « Quoi ? Ma fille. » Vous savez que c'est la seule fois dans les évangiles où Jésus, s'adressant à une femme, lui dit « Ma fille. » C'est le seul miracle rapporté. C'est la seule fois où Jésus lui dit « Ma fille. » Si vous me confessez de la bouche, je n'aurai pas honte de vous. Celui qui vient à moi, je ne le rejetterai pas. J'ouvrirai la porte. Elle a eu confiance. Elle était dans un état désespéré. Au bout du tunnel. Même les médecins, même les spécialistes n'avaient plus de solution. Et elle a confessé publiquement que le seul en qui elle mettait sa confiance, celui en qui elle n'avait jamais manqué de croire, c'était Jésus. Wow. C'est la seule fois, mes amis. Intéressant, non ? Et regardez bien, verset 34. Ma fille, ta foi t'a sauvée. Ma fille, ta foi t'a sauvée. On sait que c'est sa puissance. C'est la décision de Jésus par sa propre volonté de guérir. Mais si on n'a pas la foi, qu'est-ce qu'on attend ? Si on ne croit pas que Jésus est capable de prendre soin de nos vies, si on ne croit pas que Jésus est celui qui fait le mieux pour notre vie, combien même nous devons attendre 10 ans, 12 ans et plus, ou ne pas attendre ? Elle a touché juste le bout de son vêtement. Pas la tête, pas les cheveux. On ne lui a pas imposé les mains. Elle a juste cru. Elle a été jusqu'au bout. Va en paix. La phrase de Jésus revient très fort. Va en paix. La plupart des choses que nous vivons les plus difficiles nous troublent, nous empêchent de dormir, nous rendent agressifs, n'est-ce pas ? Ou agressives. Parce que nous ne voyons plus la solution. Parce que nous avons perdu l'objectif. Dieu ne nous promet pas l'absence de trouble. Mais il nous promet la paix au travers du trouble. Va en paix, ta foi t'a guéri. Va en paix. Qu'est-ce qu'il y a de mieux dans notre vie que d'avoir la paix de Jésus ? La paix de Jésus. Dieu est en contrôle. Pas avec ma réponse, mais avec sa réponse. Va en paix. Il y a 2 ans, une jeune fille de 21 ans, chrétienne, engagée, qui venait de se marier, a été diagnostiquée avec une leucémie. Elle a passé sa première année de mariage dans un centre anticancéreux. Soins intensifs. Au bout d'un an et un peu plus, on a dit que le cancer avait disparu. Tous ceux qui la connaissaient étaient informés. Tout le monde priait. Seigneur, délivre-la. Et au bout d'un an, la victoire était là. On a béni le Seigneur. Quelques mois plus tard, il y a une semaine, un peu plus, elle a dit à son mari, je ne me sens pas bien. J'ai très très mal au ventre. Alors son mari a appelé tout de suite l'hôpital. L'hôpital lui a dit, amenez votre femme en urgence. Pendant un jour ou deux, ils ont hésité. Ils ne voyaient rien. Et sa santé a été en se dégradant. Des emails, Facebook, Internet, toutes les connaissances, tous les amis, tous les chrétiens ont prié. Et puis on a appris qu'elle était héliportée dans un plus grand centre. Et on a continué de prier. Seigneur, délivre-la. Seigneur, sors-la de là. Et puis, l'annonce est arrivée. Elle est morte. Dieu n'a pas entendu. Mariée depuis 2 ans. 23 ans. Leucémie foudroyante. Le témoignage, c'est que dans ses derniers instants, alors qu'elle savait qu'elle partait, alors que son frère, ses frères, son mari, ses proches ne pouvaient même plus la contacter, ils pouvaient la contacter au travers d'un hublot, parler avec elle. Elle a demandé un papier, un stylo, et elle a dessiné des cœurs. Elle avait une trachéotomie, elle ne voyait plus clair, mais elle pouvait encore un petit peu communiquer. Et son frère, qui était dans une souffrance terrible de voir sa sœur dans cet état, lui a dit, tu as dessiné des cœurs, pourquoi? Et sa sœur bougeait la tête parce qu'elle ne pouvait pas parler. Alors il a dit, parce que tu nous aimes? Et elle a dit oui. Parce que tu aimes Dieu? Oui. Elle a souffert. Dieu n'a pas répondu à notre manière. Mais elle est partie en paix. Pas en crise, pas en rébellion. On n'aurait pas voulu ça. C'était pas notre attente. Et des histoires comme ça, j'en ai au moins 4, rien qu'en un mois. Dieu n'est pas sourd. Mais il sait, il connaît ses enfants. Il sait ce qu'ils ont besoin. Et la chose la plus extraordinaire qu'il leur donne, c'est sa paix. Pas un combat, pas un rejet, pas de l'amertume. Vous avez vu le texte de Pierre tout à l'heure, Matthieu 5, 23, hein ? Si tu as quelque chose, on fait combien de guerres, les uns et les autres ? Combien de pardons sont refusés ? Combien d'amertumes sont données ? Alors que Dieu est un Dieu de paix, un Dieu de réconciliation. Mes amis, peut-être vous êtes à 1 an, 2 ans, 10 ans, 20 ans de souffrance. Ma prière, c'est que votre foi reste votre foi. Parce que votre Dieu sait exactement ce que vous avez besoin. Et ma prière, c'est qu'il vous donne sa paix. Pour que vous puissiez toujours avoir confiance en lui. Parce que cette paix, vous l'emporterez pour l'éternité. Et vous n'emporterez pas vos souffrances. Le ciel, l'Apocalypse nous dit qu'au ciel, il n'y aura plus de pleurs, plus de cris, plus de souffrances. Mais la paix. Que Dieu nous encourage à relire ce texte et à se dire, est-ce que moi j'ai foi en Dieu? Est-ce que c'est ce même Dieu qui s'occupe de moi? Je vous invite à prier. Seigneur notre Dieu, tu nous surprends tout le temps par ces textes que tu nous as laissés. Tu ne nous as pas laissés pour que nous les lisions comme une histoire passée, mais comme une histoire qui continue. Et tu connais ton Église ici, Seigneur. Tu connais chacun de ceux qui sont assis dans ces sièges ce matin. C'est toi qui leur as donné la vie. C'est toi le Créateur. Seigneur, tu sais pourquoi certains souffrent. Tu sais pourquoi certains ont des maladies qui durent. Tu sais pourquoi certains ont des difficultés et que, pour l'instant, Seigneur, au moins, les choses ne s'améliorent pas. Mais Seigneur, avant tout, tu veux leur donner cette paix, cette confiance, que toi, tu n'as pas perdu le contrôle. Alors Père, je veux te remettre. Tous ceux qui souffrent, tous ceux qui peut-être aujourd'hui sont prêts à jeter l'éponge. Ceux qui se disent, mais si vraiment Dieu existait, alors pourquoi ne répond-il pas? Et ce matin, je veux juste prier, Seigneur, que tu leur donnes ta paix. Qu'ils puissent partir dans la paix, dans la joie, que nous puissions continuer, nous, leurs frères et sœurs, de les soutenir dans l'épreuve, de les aimer, de leur apporter aussi réconfort. Mais Seigneur, que ce matin, tu touches leur cœur. Alors mes amis, si vous êtes en difficulté ce matin, si peut-être vous n'aviez plus d'espoir, vous vous dites, mais qu'est-ce qui pourrait me sortir de là? Et que ce matin, Dieu est déjà prêt à vous donner sa paix. Et pourquoi pas aller plus loin? Mais c'est sa volonté, pas la mienne. Je vous invite juste à lever la main pour que je prie avec vous. Vous levez la main, vous dites, oui, je reçois la paix de Jésus ce matin. Oui, 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 oui. Cette paix est tellement incroyable. Nous étions ennemis avec Dieu. Et Dieu est venu pour nous réconcilier. Nous étions sans solution, il est venu avec sa solution. Nous étions rebelles. Il a fait de nous ses frères et ses sœurs, ses amis. Y a-t-il encore quelqu'un qui aimerait que je prie pour lui ou pour elle? Quelqu'un qui voudrait saisir cette paix? Oui. Oui, frère. Oui, père, pardon. Tu as vu aujourd'hui ceux et celles qui ont levé leurs mains, ils étaient nombreux. Seigneur, je te prie que tu établisses fermement la paix dans leur cœur. Non plus la rébellion, non plus la haine, non plus la crainte, non plus le désir de tout plaquer. Mais au contraire, la joie de savoir que toi tu les as dans tes mains. Que tu es le grand médecin, que tu es celui qui dépasse toutes les sciences. Toi qui es illimité, omniscient, omniprésent, Père, sois béni pour ces textes. Sois béni parce qu'ils sont là pour notre bien. Sois béni parce qu'ils nous rappellent que tu es le Dieu qui tient parole. Et que tu nous aides, Seigneur, à continuer de garder nos regards tournés vers toi, afin que nous marchions dans ta paix. Au nom de Jésus-Christ. Amen.